n'est pas indifférent, il y a quelque chose dans l'autre, que ce soit son intelligence, que ce soit sa beauté, que ce soit sa générosité, il y a une attirance, il y a son courage, il y a une attirance, j'ai vu quelque chose, et quelque part je désire ce bien-là, mais aussi je veux le bien pour l'autre, et à la manière dont il peut le recevoir. Donc j'ai vu une excellence dans l'autre, et je lui souhaite du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amitié n'est pas compatible avec la jalousie. C'est parce que la jalousie, c'est l'inverse. Je vois le bien dans l'autre, ou je vois le bien qu'est l'autre, et au contraire, c'est pas que je lui désire de mal, mais quelque part, je regrette de ne pas avoir ce bien-là. Je regrette, je suis comme dans une position d'attente et un peu de la jalousie. Voilà, pourquoi est-ce qu'il a ce bien, il ou elle a ce bien-là, et moi, je ne l'ai pas? Pourquoi elle a une facilité à se faire des amis, par exemple? Pourquoi elle a une facilité de parole dans toutes circonstances? Pourquoi il est doué de ses mains pourquoi il sait chanter, ou je ne sais pas. Voilà, la jalousie, c'est l'inverse. C'est par la négative que ça se définit. Et donc on voit bien que la jalousie ne peut pas aller de pair avec l'amitié, parce que la jalousie, au contraire, regrette le bien qu'a l'autre. Et quelque part, pas sans méfie, mais bon, ne s'en réjouit pas. En revanche, et ça veut dire un autre point qui est en lien avec ça, c'est que on ne peut pas fonder une amitié sur le mal. Parfois, on entend parler de l'amitié des gangsters, l'amitié des truands, etc. C'est tout à fait un roman. Et ça, je crois que ça, c'est un... parce que... ou une amitié pour détruire, une amitié... On voit bien que c'est pas pour le... Tôt ou tard, le mal qui est recherché et qui est dit, le fait de tuer, le voler, le fait voilà, d'atteindre à l'ordre public d'une manière ou d'une autre, ben, ça se retournera contre les amis. Vous voyez, parce que... les prétendus amis. Parce que justement, cette recherche du mal pour l'autre, eh bien, au fond, s'attardera comme une forme de concurrence à qui avoir... C'est une lutte de pouvoir. Donc, c'est intéressant de voir que l'amitié se fonde sur une bienveillance et sur une et non pas sur quelque chose de mal et de à la fois une recherche de souffrance ou de voilà, c'est pas quelque chose qui, parce qu'on peut parler, certains disent oui, il y a l'amitié des gangsters, il y a l'amitié de cela, etc. Il y a aussi une amitié qui dit bienveillance dit vouloir. Et donc, il n'y a qu'une amitié qu'entre des personnes qui sont dotées de vouloir. D'un vouloir, c'est-à-dire d'une prise de décision, d'un libre arbitre. Je ne peux pas, même si dans cette salle nous sommes particulièrement sensibles à ça, je ne peux pas vouloir du bien au vin. Je peux vouloir du bien au vigneron, et avoir une amitié avec un vigneron, mais il n'y a pas une amitié avec une chose, il n'y a pas une amitié avec un animal. C'est intéressant, il n'y a que deux personnes qui sont dotées de vouloir avec lesquelles on peut avoir une amitié, c'est la personne humaine et la personne divine. Et je trouve ça très beau de voir qu'Aristote dit, Aristote païen, donc 4 siècles avant Jésus-Christ, dit voilà, ça demande un vouloir, ça demande un libre arbitre, ça demande un engagement, une décision. La deuxième point de cette deuxième condition, pour ainsi dire, c'est la réciprocité dans l'amitié. On peut, ça demande que... l'amitié se distingue de la relation d'aide. Et parfois, je trouve, ou l'amour aussi, que parfois il y a une forme de confusion. On n'a pas cette... parfois, j'ai vu dans des relations amoureuses, mais voilà, on est avec l'autre pour, quelque part, le sortir de la dépression, le sortir de là où il a, ou là où il est. Voilà, c'est cette relation d'aide, mais il n'y a pas de réciprocité. Et Aristote va même jusqu'à dire qu'il faut une certaine égalité dans la réciprocité. Il faut que ce soit un aller-retour. Et quand vous sentez que dans une amitié, c'est toujours vous qui décrochez le téléphone, c'est toujours vous qui faites le premier pas, qui invitez pour des dîners, qui êtes moteur de... qui êtes moteur de l'amitié, parce que ça demande de mettre du combustible dans l'amitié. Eh bien, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que, de même en amour, parce que ça demande une réciprocité. Et une certaine égalité dans la réciprocité, ce qui est un peu, voilà, c'est pas facile à saisir, mais à un moment donné, vous pouvez vous rendre compte que, voilà, ça repose toujours sur vous, ou alors on vous culpabilise de ne pas avoir fait ceci, ou de ne pas avoir fait cela, voilà. Dès qu'une amitié rentre dans une forme de culpabilité, ou un amour, de culpabilisation, que t'es pas assez bien, que ceci, c'est ta faute, etc., dites-vous qu'on est en présence d'une manipulation. On n'est pas en présence d'une amitié. Parce que précisément, l'amitié veut vouloir le bien et de façon réciproque. L'amitié demande une égalité, je l'ai dit, c'est la troisième condition. Et attention aux amitiés déséquilibrées. C'est peut-être pas tant la différence hein, qui m'inquiète que le déséquilibre. Hein, le beau film, là, Les Intouchables, hein, qui était là, le logo là, de l'invitation, si vous avez prêté attention hein, sur Facebook, il y a Les Intouchables, c'est intéressant. C'est le film le plus vu au monde, le film français le plus vu au monde, le plus traduit dans toutes les langues, etc. Bon. Mais qu'est-ce qui fondait, au fond, quand on regarde cette amitié entre Triss et Philippe, si vous vous souvenez du film, hein, eh bien, si on regarde cette amitié-là, alors qu'il y a une grande disproportion de quelqu'un qui vient, presque caricatural, de banlieue, etc., et de quelqu'un qui vit dans un hôtel particulier, bon, on voit une grande... Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun une certaine pauvreté. Pauvreté physique, pauvreté sociale et économique. Et donc, du coup, je crois que c'est intéressant de dire que dans l'amitié, il y a une égalité, il y a un lieu, un terreau sur lequel on peut construire quelque chose, pour que, justement, il y ait cette réciprocité. Et puis, Aristote souligne une quatrième dimension, c'est que l'amitié ne peut être cachée. L'amitié ne peut pas être cachée. C'est-à-dire, vous avez peut-être vu le film, les adieux de la reine, ou les adieux à la reine, ça vous dit quelque chose ce film-là? Oui, bon, et donc on voyait dans ce film-là, c'est intéressant parce que Sidonie, qui était une des servantes de la reine, donc Marie-Antoinette, entretenait secrètement une amitié avec la reine, parce qu'elle était la lectrice de la reine, donc elle lui lisait des romans, bon voilà, etc. Mais il y avait comme une amitié, amour, on voyait parfois des gestes un peu de séduction entre elles deux. Et Aristote dit non, pour qu'il y ait une amitié, de même pour qu'il y ait un amour, il faut aussi que ce soit dit. C'est pas tacite. Je dirais l'inverse est vrai aussi. Et j'ai vu là, tout de suite avant de venir là, au téléphone avec quelqu'un, ben voilà, la personne, quand elle rompt par exemple une relation amoureuse, c'est important qu'elle le dise. Elle me dit oui, mais elle m'a envoyé un SMS, oui, c'est fini, etc. C'est pas ça. Pour moi, ça, c'est de la goujaterie. Quoi. On s'assoit avec l'autre. Si vous voulez mettre fin à une relation, c'est possible. C'est toujours possible de mettre fin à une relation. Mais si vous voulez mettre fin à une relation, il faut dire pourquoi on met fin à une relation. Et je trouve que souvent, dans les éducations, etc., je vois moi-même, j'ai eu du mal, j'ai eu une éducation, il fallait surtout pas dire. Vous voyez ? Pas de vague. Et moi, j'ai appris à dire dans la vie religieuse. J'ai appris à mettre en colère dans la vie religieuse. Attention, mais on se dit, mais comment ça se fait? Parce qu'au contraire, la vie religieuse, c'est l'amour parfait, etc. C'est perfecté caritatis, hein, comme dit le Concile. Ben oui, perfecté caritatis, la charité parfaite, c'est aussi savoir dire les choses. Et je trouve que de ce côté-là, Aristote fonde, dit, ça ne peut être caché. Parce que sinon, c'est une amitié qui est faite de vieux pieux, d'illusions, d'enthousiasme, enfin d'une forme de rêverie. Je me rêve étant l'ami de l'autre, ou de l'amoureux ou l'amoureuse de l'autre. Vous voyez, on est complètement dans sa tête. On n'est pas dans le don et on n'est pas dans le vouloir le bien concret et un vouloir un bien concret qui est réciproque. Hein, et Aristote dira, il faut donc pour être des amis qu'il y ait bienveillance mutuelle, chacun voulant le bien de l'autre d'une façon non cachée, hein, pour les différents motifs qui sont. Et donc, voilà, si vous voulez mettre fin aussi à quelque chose, ben dites-le. Hein, et dites les vraies raisons. Parce que parfois, on peut là aussi entretenir une forme de liaison, d'amitié, parce que l'autre, ben voilà, il est bien placé, parce que l'autre a des moyens, parce que... Ou alors tout simplement d'arriver avec une belle jeune fille, au bras d'une belle jeune fille, ben voilà, c'est toujours sympathique dans un dîner. Mais vous voyez, ces formes d'amitié où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et quand vous sentez qu'il y a quelque chose de caché, qui n'est pas clair dans une amitié, dites-vous qu'il n'y a pas d'amitié, tout simplement. Et qu'une amitié doit être mise au clair. Quand vous sentez que c'est pas... Voilà, on est amis, mais en même temps, il y a des caresses, en même temps, il y a des machins, etc. Bon, tu veux quoi? Oui, non, on sait ce qu'il veut. Mais non, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc je pense que... Et ça, c'est vrai tout au long. Ce n'est pas simplement au début, mais je crois que tout au long, ça demande, comme on dit, hein, c'est très à la mode, la communication. Hein, cette communication qui fait qu'on se dit les choses et on est dans une transparence. Deuxième point, ça va pas trop vite, c'est bon pour vous. Deuxième point, c'est les différentes formes d'amitié. Alors là, ça c'est vraiment, je trouve ça assez génial, parce qu'il dit au fond, il y a trois motifs pour lesquels on est des amis. Hein, les trois formes d'amitié, selon le bien qui est poursuivi. Et il y a, selon Aristote, trois formes de bien, le bien utile, le bien agréable et le bien qu'est l'autre. Le bien utile, bon, ça c'est facile à comprendre, c'est le bien, cet amour réciproque, cette amitié, à cause d'une utilité que l'autre m'apporte. Les personnes ne s'aiment pas pour elles-mêmes, mais pour l'avantage qu'elles en retirent l'une de l'autre. Dans ce même film, là, par exemple, j'ai vu ça, comme vous constatez, vous êtes au courant de mon actualité cinématographique, les adieux de la reine. Bon, Madame de Polignac, par exemple, qui était la favorite de la reine, en fait, elle était favorite de la reine, tout simplement parce que ça lui donnait aussi un statut social, le fait d'être favori, etc. Mais dès que la révolution a approché, ben voilà, elle s'est carapatée. Hein, et elle est partie. Et donc, du coup, on voit bien qu'il n'y avait pas de vraie amitié, il n'y avait pas une amitié qui va, qu'on verra dans d'autres personnages, qui va jusqu'au bout. Hein, qui va jusqu'au bout. Hein, et donc, du coup, l'avantage que j'en retire, mais en même temps, c'est pas forcément, là, peut-être c'est présenté de façon négative, mais c'est pas forcément négatif, en fait, cet aspect de l'amitié. Il y a bien des amitiés qui se construisent autour des projets. Hein, et on le va voir après, qui évolue. Ben voilà, tu m'es utile, c'est vrai, parce que tu fais ceci, tu fais cela. Et peut-être qu'on est au début, c'est arrivé qu'une relation, par exemple, professionnelle qui, par nature, est une relation qui vise à l'utile, ben voilà, débouche sur autre chose, parce qu'on découvre d'autres fonds. On voit, il y a une évolution. Donc il faut toujours aussi laisser la porte ouverte, et c'est souvent parce que ça a débuté par quelque chose d'utile, quelque chose qui est à faire, et quelque chose de, un faire ensemble, c'est parce que ça a débuté par là que ça peut aller vers autre chose. Donc, et c'est bien comme ça aussi qu'on se découvre, parce qu'on se donne, quelque part, dans un projet, un but commun, au-delà même d'un attachement personnel à l'un à l'autre. Hein. Donc, voilà. La deuxième forme, c'est l'amitié agréable. L'amitié agréable, c'est on s'aime en fonction du plaisir que l'on a d'être ensemble. Mais quand le plaisir cesse, l'amitié cesse. Hein, ce n'est pas les qualités de l'autre dont je suis l'ami, l'amour, l'intelligence, la profondeur, la légèreté, mais je suis ami à cause du plaisir que je vais en retirer, de la présence de l'autre, et inversement. C'est ce que Aristote appelle la sympathie. La sympathie n'est pas à confondre, c'est une des formes de l'amitié, mais voilà, on est simplement bien ensemble. Ensuite, on verra un peu les difficultés dans l'amitié, mais justement, je suis ami, pourquoi je suis vraiment ami? Et la troisième forme d'amitié, c'est l'amitié en vue du bien qu'est l'autre. On aime l'autre pour lui-même. Autant les deux autres formes sont passagères, hein, quand l'utilité ou le plaisir cesse, l'amitié cesse. Hein, ce sont des amitiés accidentelles au sens philosophique. Accidentelles, c'est pas qu'il y a eu un accident qu'on s'est rentré dedans. Hein, au sens philosophique, accidentelles s'opposent à essentielles. C'est pas lié à l'essence de ce qu'est l'autre, mais c'est lié à des choses qui peuvent changer dans l'autre, des choses qui sont, qui peuvent être à l'origine. Ça peut être à la fois la beauté, à la fois l'intelligence, à la fois le poste social, voilà, des choses extérieures à la personne qui font aussi la personne, mais c'est pas vraiment à la personne elle-même que l'on est attaché. Hein, ce sont des amitiés donc au sens accidentel, elles ne sont pas essentielles. L'autre n'est aimé dans son essence. Mais en tant qu'il procure un plaisir ou une utilité. L'amitié la plus parfaite, c'est l'amitié qui s'approche l'un de l'autre en tant qu'il est bon, et ce, pour lui-même. Et Aristote ajoutera, cette amitié n'a d'autre but que le bien qu'est l'autre, et non pas en tant qu'il m'apporte quelque chose. Hein, je pense à un exemple, la maîtresse de Mussolini. Par exemple, bon, alors qu'elle voyait la fin approcher, la dictature s'effondrer, on lui a proposé une porte de sortie. Elle a dit non. Je l'ai aimé dans la vie, je l'aimerai dans la mort. Bon, elle n'a pas accepté de porte de sortie. Parce qu'elle, c'était la personne, pourtant discutable s'il en est, hein, la personne elle-même auquel elle était attachée. Elle aimait cette personne-là. Hein. Et donc je crois que c'est important. Ça. Et ce n'est pas facile de savoir pour quel motif on est amis. Ce n'est pas facile de savoir pour quel motif même on se marie. Pas mal d'accompagnement comme ça vers le mariage, et je trouve je me souviens comme ça d'une femme épousant un beau militaire, et puis comme ça arrive souvent dans les carrières militaires, à partir d'un certain grade, ils partent dans le civil, et crise matrimoniale. Elle avait épousé, mais de façon inconsciente, elle avait épousé les galons. Hein. Et non, mais c'est des choses qui arrivent. Et je crois que c'est le fait d'épouser les galons, mais elle, pour elle, non. Pour elle, c'était bien la personne. Elle s'est aperçue après coup, mais il n'y a plus de galons, il n'y a plus l'honneur, il n'y a plus le grade, il n'y a plus mon commandant, il n'y a plus mon général, il n'y a plus rien du tout. Voilà, c'est Tartempion au milieu d'une entreprise qui fait du fric. Et donc, du coup, l'autre, voilà, grosse crise matrimoniale, conseil conjugal, voilà, il fallait. Et elle a découvert, c'est pas facile de savoir quel est le motif. Et ça, je vous invite, si vous êtes dans une relation amoureuse, en même temps, c'est progressivement qu'on découvre le motif. Et je trouve que, au fond, le motif, c'est souvent dans les épreuves qu'on le découvre, le vrai motif. Est-ce que l'autre est vraiment attaché? Est-ce que. C'est dans des moments difficiles, hein, c'est dans. Encore une fois, dans ce film des Intouchables, moi, ce qui m'a beaucoup touché pour le coup, c'est de voir l'amitié, l'amour, entre guillemets, entre Philippe, hein, joué par François Cluzet, et puis la fameuse Éléonore. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film, mais il entretenait des relations épistolaires. Alors, déjà, l'autre. Omar Sy, là, le triste en question, il ne comprenait pas épistolaire, il pensait que c'était un coup de fusil, mais donc, non. Les relations épistolaires pendant 6 mois, alors on parlait de sphinx, dansant dans les prairies, etc. C'est des choses tout à fait romantiques. Mais il n'osait pas faire le pas de la rencontre. Alors que, elle, semble-t-il, lançait des SOS désespérés. Et pourquoi il n'osait pas lui faire le pas de la rencontre? Parce qu'il avait peur d'être jugé avec son handicap lourd, son fauteuil roulant, sa tétraplégie. Hein, et c'est vrai que, quelque part, j'ai trouvé ça assez beau, et c'est je trouve là où il y a le plus d'émotions retenues et contenues dans ce film-là, dans l'acteur, François Cluzet, justement, où quand... Il a peur de la rencontre. Il a peur de la rencontre parce que dans cette rencontre-là, peut-être plus que dans d'autres, la fragilité éclate en plein regard. Et donc, au vu au sud de tous, on peut pas la cacher. Nous, on planque comme on peut nos fragilités. Là, on pouvait pas la cacher. Et je trouve c'est important d'être là où on voit la vraie amitié, c'est quand aussi on peut montrer ses vulnérabilités. Mais ça demande beaucoup de confiance. C'est pas si simple déjà de les montrer au Seigneur, mais de montrer sa propre vulnérabilité à l'autre, de montrer aussi sa pauvreté à l'autre, et que l'autre reste et que l'autre est là. Et je pense que ça veut dire qu'il est vraiment attaché à ce que je suis, donc pas au bien que je peux apporter ou au côté fantaisiste ou au côté agréable ou utile. Hein. Les déceptions, troisième point, c'est les déceptions dans l'amitié ou dans l'amour. Les déceptions dans l'amitié ou dans l'amour, elles viennent au fond à la base qu'on ne parle pas de la même chose. À 100%, je peux vous dire, les déceptions dans ce moment-là, analysées avec ces trois critères d'Aristote, moi je trouve que c'est assez lumineux, c'est qu'à un moment donné, il y a une erreur d'aiguillage. À un moment donné, on était sûr qu'on allait dans un sens, en fait on allait dans un autre. Et on ne mettait pas les mêmes choses sous le même mot. Et les amis, dit Aristote, sont en conflit quand... Ils ne sont pas amis de la même façon. Ils ne sont pas amis de la façon qu'ils croient l'être. Et c'est souvent le cas. Hein. Ces difficultés viennent qu'on ne parle pas de la même chose. L'un parle de plaisir, c'est très agréable d'être avec toi, et l'autre, non. C'est pas seulement d'être agréable d'être avec toi. Moi, c'est toi qui m'intéresse. C'est pas le plaisir que j'ai d'être avec toi. Et du coup, ce déséquilibre dans la relation... Ou alors, voilà, parce que tu me donnes un coup de main, parce que tu me, t'es toujours là pour m'aider, etc., je suis ton ami. Et puis, à un moment donné, je dis non, je peux pas, je peux rendre... Voilà, ben non, je suis plus ton ami. Moi, je te donne un coup de main parce que... Non pas parce que c'est ta personne même, parce que je trouve ça, tu es un type intéressant, tu es une fille intéressante, tu es quelqu'un de vraiment intéressant. Donc, et je trouve que la crise, au fond, va être le révélateur. La crise va être le révélateur du lien qui nous unit. Hein, la crise, quelque part, ce révélateur, pour ceux... Mais vous êtes nés peut-être après la naissance du numérique. Non, avant quand même, je pense. Avant. L'argentique... vous êtes jeune, mais pas ce point-là. L'argentique, vous savez, l'argentique, le fonctionnement de l'argentique, c'est qu'on imprime, donc avec des négatifs, on imprime sur un papier, hein, et le papier, ensuite, on le met dans un révélateur. Et là, apparaît la photo. Et je trouve que la crise est un révélateur. Donc c'est pas parce qu'il y a une crise que l'amitié est foutue, que l'amour est à mettre au rencard. c'est qu'il y a une crise, ça va dire quelque chose du lien qui nous unit. Et ce quelque chose du lien qui nous unit, il faudra aussi l'interpréter et il faudra en reparler. Parce que si on est arrivé à une crise, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a une tension qui s'accumule, on n'ose trop rien dire, on est chacun dans son coin, pas de vague, etc. Puis à un moment donné, on n'en peut plus. Et du coup, ça saute. Et le bouchon saute, et tant mieux. Et du coup, la crise va permettre de dire un certain nombre de choses. Hein, que c'est toujours moi qui fais des efforts, que c'est toujours toi qui, voilà, qui fais ceci ou qui ne fais pas ceci, etc. etc. Hein, et je pense que... Du coup, ça veut dire que l'amitié aussi nous fait grandir, vous voyez, dans ce sens-là. Ça nous modifie, ça nous transforme. Hein, ça nous transforme. Hein. On se rend compte qu'on comptait vraiment pour l'autre au moment de la crise, ou alors qu'on était utilisé. Hein. La crise vient éprouver la solidité de l'amitié. Quand la situation sociale change, le déshonneur ou la maladie frappe l'un ou l'autre, eh bien, on voit un peu si l'autre était intéressé par la personne elle-même, ou alors parce qu'elle lui apportait le plaisir, l'utilité. Hein, l'ami se recherchait lui-même en moi. Hein, c'est une citation de... c'est encore d'Aristote, celui-là. Les conflits naissent surtout des amitiés basées sur l'utilité. Les amis de cette sorte attendent toujours des bienfaits. Ils demandent toujours davantage, s'imaginant avoir moins que leur dû. Ils en veulent à leurs amis parce qu'ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent ou ils méritent. Le bienfaiteur est dans l'incapacité de satisfaire toutes les demandes. Je trouve ça assez, 4e siècle avant Jésus-Christ, une observation de la nature humaine qui est assez impressionnante. Hein, quelqu'un qui est toujours en demande, toujours. Mais déjà, où est-ce que tu renvoies l'ascenseur? Quand est-ce que tu renvoies l'ascenseur? Puis deuxièmement, quand est-ce que. Toi aussi tu donnes, c'est ça? C'est quand est-ce qu'il y a cet aller-retour, côté mutuel, hein, quand la voilà, je vous ai parlé de la question de la culpabilité, ben là, du coup, on est en face d'une même manipulation, hein, et c'est la même chose en amour, hein, encore une fois, interpréter ça de la même manière. Hein. L'amitié, c'est intéressant, Aristote dit, l'amitié fondée sur le plaisir a plus de chances de résister, car la présence de l'autre est tout de même au centre du sentiment. Mais cette amitié fluctue beaucoup. Hein. C'est vrai que, mais parce que c'est vrai que l'utilité, quelque part, l'autre, c'est un peu la rustine, quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de je sais pas quoi. Ben voilà, il y a juste cette personne-là qui me conduise en voiture. Voilà, voilà. Je l'ai là, mais parce qu'il me conduit en voiture. Mais le centre de l'amitié ou de la relation n'est pas les personnes. Est-ce que l'amitié fondée sur le plaisir, sur l'émotion, c'est quand même la personne elle-même qui est au centre, c'est la présence de l'autre qui est quand même, donc c'est une amitié qui résiste un peu plus aux crises. Hein. Hein, mais l'amitié, ces amitiés-là fluctuent beaucoup, dit Aristote. L'amitié, une citation, chez les jeunes gens semble se fonder sur le plaisir car ils sont souvent guidés par leurs passions, c'est-à-dire leurs émotions, hein, et cherchent surtout ce qui leur plaît et le plaisir du moment. Mais en avançant en âge, les choses qui leur plaisent changent. Ainsi, ils forment vite des amitiés et vite les abandonnent, car leur amitié change avec le plaisir qu'ils recherchent. Les jeunes gens ont aussi un penchant à l'amour passionné, car celui-ci relève de l'émotion et a pour origine le plaisir. De là vient qu'ils aiment facilement et cessent vite d'aimer, changeant parfois dans la même journée. Oui, là, c'est des cas particuliers. Si dans la même journée... on vous fait deux déclarations, etc. D'un contraire, vous dites, là, non, ce n'était pas la bonne personne. Voilà, le lien se dissout quand l'émotion n'est plus au rendez-vous. Hein, donc on voit bien, c'est intéressant de voir que l'émotion, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste un marqueur, vous voyez, l'émotion. Ben, je suis bien avec la personne, j'ai du plaisir. C'est sûr que si vous êtes en vue d'une préparation au mariage et que le fait d'être avec l'autre vous coûte, arrêtez tout de suite, je veux dire, si vous devez vous arracher chaque geste, vous vous dépassez à chaque moment, à chaque parole, faut appuyer sur le bouton stop. Hein. Donc, voilà, justement, je crois que c'est intéressant de dire que... Mais beaucoup confondent l'émotion et l'amitié, et c'est pas pareil. Hein, quand on a été... Alors, c'est intéressant. Quand on a été déçu en amour et en amitié, il y a le risque de se refermer sur soi-même. Et là, je me permets de rajouter, mais Aristote n'en a pas parlé, mais... voilà, je peux le dire en toute simplicité, on guérit de mauvaises expériences en faisant de bonnes expériences. Parce que, vous voyez, il y a trop le risque, parce qu'on se dit, mais on s'en veut, mais comment est-ce que j'ai été aveugle à ce point? Comment je me suis fait avoir à ce point? Comment je l'ai cru à ce point? Hein, et vous voyez, On s'en veut soi-même, on s'en veut à l'autre, mais on s'en veut à soi-même, parce qu'on se dit, mais pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, ensemble, et dans notre relation? Et puis, en fait, c'est, on voit que c'était complètement un autre motif qui était recherché. Mais voilà, il y a le risque dans ce cadre-là il y a le risque de s'enfermer, de se refermer, parce qu'il y a une vraie souffrance. Vous savez, les blessures d'amitié, les blessures d'amour, c'est certainement les blessures les plus dures à porter. Parce que l'implication de la personne est aussi la plus importante. Mais il y a aussi, mais en même temps, c'est parce que je me suis impliqué, que je me suis ouvert à l'autre, qu'aussi qu'une amitié, un amour est possible. Et on voit bien que dans ces situations-là, il y a un danger, c'est de se refermer sur soi-même. On ne mourra plus. On ne mourra plus. C'est fini. On ne mourra plus. Et maintenant, voilà. Et je me blinde et mets un bunker autour. Infranchissable, oui, mais infranchissable. Et oui, peut-être tu souffres plus, mais tu es très seul. Et oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est ça qui rend heureux? Est-ce que c'est ça qui rend heureux? On verra, Aristote en parle à la fin, mais c'est vraiment... Donc c'est pas facile, faut réouvrir. À la fois, il y a un pardon à donner, quand on a été déçu en amitié, en amour, mais en même temps, il y a de demander vraiment une réouverture du cœur. Et nous, comme croyants, pour ceux qui partagent la foi chrétienne, nous demandons au Saint-Esprit, qui est l'amour lui-même, du Père et du Fils, nous demandons qu'ils viennent réouvrir notre cœur. Et puis même à l'intérieur même d'une même relation, c'est-à-dire sans qu'il y ait rupture, il y a des moments où on se fait mal, volontairement ou involontairement. Cette souffrance-là, c'est important de la nommer, de la dire et de demander pardon et de rentrer dans un processus de réconciliation. Le quatrième point, c'est... La justice et l'amitié. C'est intéressant de voir qu'Aristote traite la question de l'amitié à l'intérieur de la vertu de justice. La vertu de justice, vous savez, c'est les quatre vertus cardinales. Les quatre vertus cardinales, justice, prudence, tempérance et force. Cardinales comme les quatre points cardinaux qui permettent d'orienter notre vie. La justice, c'est l'orientation, notre manière d'agir face à l'autre, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. La tempérance, c'est un rapport de moi-même avec tout ce qui est source de plaisir. La force, c'est un rapport de moi-même avec tout ce qui est source de difficulté. Et puis la prudence, c'est un rapport que j'ai dans la prise de décision, la vertu de prudence. Alors, vertu, le mot aujourd'hui peut-être est un peu connoté négativement, mais vertu, virtus, virtutis, c'est la force. C'est-à-dire que c'est une force, c'est une disposition permanente que j'ai d'agir et de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et de prendre des décisions en fonction du bien, etc. C'est une disposition. Ça veut dire quoi? C'est que aussi l'amitié et cette disposition permanente, elle arrive par une répétition des actes. Elle arrive par une répétition des actes. C'est-à-dire que le philosophe dit justement, il y a la vertu, c'est une deuxième nature. Et si cette deuxième nature est en vue du bien, c'est une vertu. Si cette deuxième nature est en vue du mal, c'est un vice. Mais il y a quelque chose d'habituel. Il y a des gens, vous voyez, par exemple, où qu'ils soient, ils se donnent. Où qu'ils soient, ils sont dispo. Parce que c'est en eux une habitude. C'est une disposition de l'âme. C'est une attitude du cœur qu'ils ont de façon permanente. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que l'amitié relève de la vertu de justice. C'est une sous-vertu de la vertu de justice. Ça veut dire aussi qu'on peut être aussi injuste avec ses amis. Et de réfléchir, est-ce que je donne en termes de temps, encore une fois, en termes d'affection, est-ce que en termes de réciprocité, est-ce que... C'est pas facile à voir, mais est-ce que je suis dans une consommation de l'autre, ou est-ce que vraiment je donne à l'autre ce qui lui est dû, et donc je suis vraiment juste. De même avec ses proches, avec ses parents, on peut être injuste avec ses parents, on ne donne pas le temps qui leur convient et qui leur est dû, de fait d'être parent. On peut être injuste avec Dieu, on ne lui donne pas le temps qui lui est dû. Vous voyez, c'est rare que je vais dans les confessions, moi je suis assez attentif. On se confesse beaucoup d'orgueil, d'impureté, de tout ça, de tous ces trucs-là, mais bon, c'est bien. Mais c'est bien, non, c'est pas bien, mais je veux dire, c'est bien de s'en confesser. Mais en même temps, c'est rare qu'on s'accuse d'avoir été injuste. Oui, c'est rare. Moi, j'étais injuste dans cette relation-là, parce que ça rappelle justement l'injustice, c'est dans tout ce qui touche les relations. Et donc j'étais injuste. Et du coup, je demande pardon, et il y a quelque chose à rétablir. Hein, la pénitence qu'on donne, que ce soit la société civile ou l'Église dans le sacrement de réconciliation, la pénitence, elle a deux fonctions. Hein, premièrement, réparer quelque chose, un mal qui a été commis. Hein, et puis, deuxièmement, guérir. Et donc, réparer et guérir. Justement, j'étais injuste, mais voilà, il faut trouver une pénitence intelligente, c'est pas trois patères, deux ave, c'est trouver qu'est-ce qui va te faire grandir. Il y a ta liberté qui s'est orientée vers, alors tu avais la possibilité, vers quelque chose qui te, quelque part, voilà, qu'est-ce qui va te faire grandir, voilà, d'un acte que tu vas poser et qui va te faire grandir. Et qui va réparer, s'il y a peut-être une demande de pardon, si j'étais injuste en critiquant, en cassant la réputation de l'autre, par exemple. C'est quelque chose, c'est une injustice, la calomnie. C'est une forme d'injustice. C'est, on dit, hein, du mal de l'autre, un mal qui est faux. Donc, on invente du mal sur l'autre. Hein. Donc, c'est très, très courant. Hein. Donc, on voit bien que l'amitié, elle me pousse hors de moi-même. On peut être juste en ne. Voilà, on ne peut pas être juste qu'en rendant l'appareil en termes de temps. Donc, en pensant à ça, parce qu'il faut passer du temps avec l'ami, on va le voir, ça demande de passer du temps. Car l'ami aime être avec son ami, passer du temps avec lui. C'est un des signes de l'amitié, vous savez, c'est ça. C'est que j'aime être avec toi. C'est tout simplement ça. Et donc on voit bien que si l'autre, voilà, je suis dans l'utilité, etc., je suis un consommateur, je suis injuste. Mais Aristote dit qu'il y a une deuxième forme de manquer à l'amitié et à la justice. La deuxième forme, c'est on peut être injuste en vivant une amitié paresseuse. Qu'est-ce qu'il appelle une amitié paresseuse? C'est l'amitié, on l'a vu, donc demande la bienveillance. Et la bienveillance naît subitement, le fait spontanément, facilement, parce qu'on admire quelque chose dans l'autre, une certaine excellence dans l'autre, une qualité physique chez les athlètes, morale, la magnanimité, le courage intellectuel, un esprit brillant. La bienveillance naît subitement dans ce cas, mais ne se transforme pas simple, ne se transforme en amitié que quand il y a réciprocité. Et il y a réciprocité que quand on décide de faire le bien de façon efficace. Et Aristote dira, c'est pas seulement la bienveillance, mais la bienfaisance. Il faut faire non pas vouloir le bien et rester velléitaire, il faut faire du bien à l'autre. Et il faut vraiment, il faut dire, si je veux être ami, je demande aussi à faire du bien et que poser des actes. Et donc il peut y avoir une forme d'amitié paresseuse. Qui est simplement parce que je pose pas des actes, je reste dans la velléité, je reste dans le bon vouloir, mais il y a des actes parfois où on me demande de dire est-ce que tu es ami ou pas, est-ce que tu es avec moi, est-ce que tu n'es pas avec moi, et je les pose pas. Et là c'est ce qu'on appelle l'amitié paresseuse, c'est que, voilà, je suis, il y a, y a quelque, vouloir le bien de l'autre de façon efficace pour qu'il y ait amitié. Hein, il faut se donner de la peine pour rendre l'autre heureux, selon la façon dont il a envie d'être heureux. Il ne s'agit pas d'imposer un bonheur de l'extérieur, évidemment. Hein. L'amitié est donc une vertu qui s'acquiert par la répétition des actes. Hein, demande un passage à l'acte pour rendre l'autre heureux. L'amitié paresseuse, c'est une simple bienveillance sans passage à l'acte, et donc ça fragilise l'amitié. Hein. Donc, passer du souhait à la réalisation, au fond. Hein. Le cinquième point, voilà. Le cinquième point, c'est la diversité des amitiés ou les amitiés entre personnes inégales. Alors, qu'est-ce qu'on appelle personne inégale pour Aristote? Hein, c'est personnes inférieures et supérieures. Par exemple, parce qu'on a dit, au fond, l'amitié parfaite, c'est l'amitié entre personnes égales. Qu'il y ait une égalité, il y a quelque chose de commun entre les deux. Mais Aristote dit non, il peut y avoir une forme d'amitié qui est différente, il y a différentes formes d'amitié entre personnes inégales. Elles ont tout en commun de vouloir le bien. Entre le supérieur et l'inférieur, il peut y avoir une amitié, comme par exemple, je donne des exemples, qu'il cite lui-même, entre un père et un fils, entre Dieu et l'homme, entre concitoyens, c'est ce qu'Aristote appelle la concorde, c'est intéressant, ça m'a. Pour qu'il y ait, au fond, une vie, c'est ce qu'on appelle le lien social. Pour qu'il y ait une vie sociale ensemble, possible, il faut qu'il y ait une certaine amitié. faut que, voilà. Alors c'est sûr que là, j'étais bloqué dans les embouteillages à Porte-Maillot. Là, c'était plus compliqué de voir l'amitié, le que l'autre, je te laisse passer, etc. Sinon, on voit bien. Non, non, c'est intéressant. Parce que je laisse passer l'autre, et oui, voilà, je suis, voilà. Et puis, je me tends intérieurement. Et voilà, ce qu'Aristote appelle la concorde. Il faut une certaine amitié. De fond, il faut une certaine vouloir le bien pour l'autre. Bon, alors ceux qui veulent le mal pour l'autre, ben voilà, on les met hors d'état de nuire, parce que voilà, ils ne peuvent pas, pour X raisons, vivre en société. Hein, mais la concorde, c'est intéressant ça. C'est là, donc entre concitoyens, c'est ce qu'on appelle une forme d'amitié. Entre une personne âgée, donc les inégalités, entre une personne âgée et un jeune, entre un mari et sa femme, je suis désolé mesdemoiselles, mais pour Aristote, alors ce temps-là, les femmes n'avaient pas les mêmes droits, donc c'est l'amitié entre un inférieur et un supérieur. Donc on ne sait pas qui est qui. Bon, voilà. Mais donc c'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir ça, de voir qu'au fond, bien sûr qu'il y a une amitié parfaite qui est dans l'égalité, mais il y a aussi d'autres formes. Il faut laisser d'autres chances. Alors ce ne sera pas la même chose qu'on partagera. Et je crois qu'il y a aussi une progressivité. Il y a un temps. On n'en a pas parlé, mais il y a un temps dans l'amitié. Il y a quelque chose à partager. Il y a quelque chose à voilà, de fait que... Et puis, on ne partage pas la même chose avec tout le monde, mais il y a aussi une forme d'amitié, de vouloir le bien. Il faut vouloir le bien, c'est supérieur, même si aujourd'hui, vous avez beaucoup de colère contre votre manager. Ben voilà, vous lui voulez quand même du bien. Hein. C'est une forme d'amitié, un peu paresseuse, parce que bon, vous n'avez peut-être pas passé à l'acte, mais c'est déjà pas si mal. Vous ne lui voulez pas du mal. Vous ne voulez pas qu'il se tue, qu'il se machin, etc. Il y a une évolution dans l'amitié, c'est le sixième point, il y a une évolution dans l'amitié, c'est une amitié, au fond, il y a une forme d'unité entre les trois formes, hein. On a vu hein, l'utile, l'agréable et pour la personne elle-même, il y a une forme d'unité, et c'est vrai que, quelque part, une vraie amitié, même si c'est une amitié pour la personne elle-même, et ça c'est intéressant ce que dit Aristote, une vraie amitié doit s'accompagner de plaisir. Et il dira dans d'autres passages sur l'éthique, il dira l'acte bon, il est moins bon si on l'accomplit sans plaisir. Il faut un certain plaisir à être ensemble, une certaine joie. Plaisir, joie, dans ce sens-là, c'est synonyme. Hein. Et donc, du coup, il faut un plaisir à être ensemble. Et donc, du coup, c'est vrai que parfois, on commence à avoir simplement du plaisir d'être avec l'autre. Et puis, progressivement... Voilà, on évolue, puis voilà, et on voit que c'est un attachement qui est bien plus sérieux que le simple plaisir. Donc le plaisir, il faut donner aussi une chance au plaisir d'aboutir à quelque chose de plus définitif. Hein. Mais aussi, le plaisir n'est pas recherché en lui-même, dans une forme d'amitié, on peut dire, parfaite, hein, qu'on veut le bien de l'autre pour ce qu'il est, mais comme une surabondance. Hein, c'est une joie intérieure, mais parce que je l'aime lui-même, cette personne-là, mais c'est une joie qui vient comme une surabondance de ce que je peux être avec lui, du bien que je lui veux, et que l'on se fait l'un à l'autre. Il y a une vraie joie à être ensemble. Hein, hein, et donc, on peut passer donc d'une forme d'amitié à l'autre, ça je pense que c'est assez courant, mais dans un sens comme dans un autre. Hein, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une amitié qui est simplement pour l'utile ou le plaisir, etc., à une amitié qui s'ancrage, qui a son ancrage dans vraiment le bonheur et le désir de l'autre, le bonheur de l'autre pour ce qu'il est, mais l'inverse est aussi vrai. C'est pour ça qu'il faut entretenir, c'est un moteur. Il faut entretenir l'amitié, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est du temps. Et ce qu'il entretient, c'est du temps passé ensemble. Et c'est du temps passé ensemble, et c'est des actes posés ensemble. C'est ça qui entretient l'amitié. Hein, si je passe jamais de temps avec l'autre, et si je n'ai pas ce désir-là, ce n'est pas un manque, faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un ami voilà. Hein. Il y a une croissance, à force de bienveillance, hein, donc... Le signe de l'amitié vraie parfaite, c'est que l'absence de l'autre est douloureuse. Si tu n'es pas là, ça me manque. Pour les amis, la chose la plus préférable, c'est de vivre ensemble. C'est se vivre ensemble. Et c'est ça, au fond, c'est une vie commune. Alors, une vie commune, non pas une vie commune comme on l'entend aujourd'hui, mais une vie commune, c'est partager du temps ensemble. Et c'est vrai que quand on est amoureux, par exemple, si c'est le cas dans certains... vous avez tout de suite le désir d'être ensemble parce que justement l'amitié tend à la vie commune. C'est ça que c'est une des marques. Si vous dites oh, surtout pas qu'on vit surtout pas ensemble, toi ici, moi dans l'autre bout de Paris, etc. Là, il faut se poser la question est-ce qu'on est vraiment amis, voire amoureux, quoi, parce qu'il n'y a pas un désir d'être ensemble. C'est une communauté de vie. Hein, ça s'est repris par le droit aussi. C'est une communauté de vie, le mariage, par exemple. Donc, et ce qu'Aristote appelle la vie d'intimité, c'est-à-dire de communion, de partage continuel, si l'absence entre amis se prolonge, elle semble bien entraîner l'oubli de l'amitié, d'où le proverbe « un long silence a mis fin à de nombreuses amitiés » ou ce qu'on dirait « loin des yeux, loin du cœur ». Voilà, c'est vrai que le fait d'avoir une amitié qui ne s'entretient pas, mais on voyait, en même temps, bah, voilà, il y a des amitiés qui passent. Hein. Je pense que c'est... ça fait partie de la vie, parce qu'on s'éloigne, parce que géographiquement et puis progressivement, intérieurement. Mais il dit, Aristote, est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'amis? Alors il répond, il n'est pas possible d'être lié d'amitié très forte avec beaucoup. En effet, l'amitié ne peut se porter sur beaucoup, car l'amour tend à être la pointe extrême de l'amitié, et celui-ci est envers une seule personne. L'amitié très forte ne s'adresse qu'à un petit nombre. Donc on peut avoir de la sympathie, point d'avis, ou au niveau du plaisir, une concorde avec plusieurs, mais d'une amitié à la manière d'aimer l'autre pour lui-même, ça demande beaucoup d'énergie, et donc évidemment, on est tous limités en énergie, et on ne peut pas forcément le faire avec tous. Hein. Cette amitié-là, elle ne peut être déçue. Alors, c'est une citation de Saint-Exupéry qui est intéressante. L'amitié, je l'adore, extrait de la Citadelle. L'amitié, je la reconnais à ce qu'elle ne peut être déçue. Hein. Mais tout de suite, il fait le reproche à l'autre. Mais tout de suite, celui que tu aimes, tu le transformes en esclave. S'il n'assume pas les charges de cet esclavage, tu le condamnes. L'amitié résiste quand elle est soucieuse du bien de l'autre. Elle peut résister à l'épreuve. C'est Saint-Exupéry qui dit « J'aime l'ami fidèle dans la tentation, car il n'est point de tentation. S'il n'est point de tentation, il n'est point de fidélité, et je n'ai point d'ami. » Et c'est Montaigne qui dira « Dans l'amitié authentique, je me donne à mon ami plus que je ne cherche à le tirer vers moi. » Vous voyez, c'est ça, cette idée d'épreuve, d'éprouver l'amitié pour eux. Hein, l'amitié me change, me rend meilleur. Hein, ce sont des vertus qui me transforment intérieurement. C'est normal. Le fait, vous savez, quand quelqu'un vous témoigne de son amitié, de son attachement, etc., c'est pas rien. Quoi. C'est quelque chose de très fort. À fortiori de l'amour. Ça bouscule énormément à l'intérieur. À l'intérieur du cœur, ça bouscule énormément. Puis à l'intérieur du corps aussi, mais bon, donc du coup, je pense que cette amitié-là, voilà, ça ne me laisse pas. Si ça me laisse indemne, posez-vous des questions. On ne sort pas indemne d'une amitié, d'un amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose de faux, hein, qui a été vécu. Hein. Elle réclame, pour que cette amitié soit parfaite, une stabilité intérieure, une structure intérieure. Et il dira, en fait, ces formes d'amitié parfaites, elles sont rares, parce que ça demande que les personnes elles-mêmes soient bonnes, soient suffisamment structurées. Et on voit bien que dans les difficultés à rentrer en relation avec d'autres, et avoir une amitié en particulier, les blessures personnelles, les fragilités personnelles, les immaturités, font que l'amitié va progressivement se déliter, et s'entraîner vers le... Voilà, parce que la personne elle-même n'est pas assez construite. Hein, l'amitié parfaite inclut la tendresse, une forme de tendresse sans équivoque entre hommes, entre femmes, il y a une forme de tendresse. Je pense que c'est la tendresse, j'aime bien Jean Vanier, qui est le fondateur de l'Arche, vous connaissez peut-être, dit la tendresse, c'est le signe de la maturité. On est capable de montrer une tendresse qui n'est pas séduction, vous voyez. L'amitié, quelque part, s'oppose à la séduction. Elle peut être parfois le préalable, mais séduction cherche à tirer, à capter. L'amitié, au contraire, on est face au bien, on est séduit. C'est-à-dire, l'autre ne fait rien, parce qu'il est, on est séduit, ou ce qu'elle est, on est séduit. Et donc, c'est intéressant de voir que l'amitié implique aussi une tendresse, et qu'il y a une forme de tendresse virile, comme il y a une forme de tendresse féminine, sans équivoque, hein, une amitié entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes aussi, je pense que ça peut être tout à fait possible, à condition, je pense que je mettrai peut-être un petit bémol, à condition que chacun quand même soit stabilisé dans son propre état de vie. Parce que qui dit amitié dit voir le bien de l'autre, vouloir le bien de l'autre, faire du bien à l'autre, ben voilà, si moi-même je ne suis pas au clair avec mon propre état de vie, ben du coup ça peut basculer, ça peut avoir un peu dragouiller comme ça, on n'est pas, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas au clair, on peut voilà, donc je pense que ça demande une stabilité. Vous avez par exemple des grands saints, hein, qui eux étaient archi stables dans leur état de vie, qui ont eu des grandes amitiés, hein, Saint François, Sainte Claire qu'on cite souvent, comment il s'appelle, François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Bon, vous avez des amitiés comme ça, qui, Saint-Benoît et Sainte-Scolastique. Oh, ils étaient frères et sœurs en plus, c'est autre chose. Mais bon. Là, mais c'est pas facile d'être l'ami de son frère ou de sa sœur. Je sais pas si vous avez. Ce serait intéressant d'avoir ce sujet, l'amitié dans la parenté. Hein, c'est bon. Mais bon, bref. Voilà, ça implique la tendresse, un signe de maturité, sans équivoque, sans sensualité, hein, mais exprime une communion. À la différence de l'amitié, du manque d'amitié qui est une souffrance, c'est Aristote qui dira, pour quelqu'un de seul dans la vie, la vie est difficile. Il n'est pas facile laisser à soi-même d'exercer continuellement une activité, mais en compagnie d'autres, cela est bien plus facile. Je trouve ça très fort, je veux dire, c'est d'un païen, de quelqu'un qui n'a pas connu le christianisme, qui dit au fond, pour quelqu'un de seul, la vie est difficile. Vous savez, de ne pas avoir d'amis, c'est difficile, parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça, on n'est juste pas fait pour ça. Et donc, si on n'a pas d'amis, mais il faut se poser la question, pourquoi? Et le septième point, l'amitié avec Dieu, ce serait un enseignement en tant que tel, mais bon, je vais simplement dire une petite chose, c'est que pour Aristote, l'amitié avec Dieu était forcément imparfaite. Elle est imparfaite dans le sens où il y a une inégalité. Mais cette inégalité, et c'est là que je trouve que c'est très beau en Jésus-Christ, cette inégalité, elle a été réduite à néant par l'humanité. Nous avons avec Dieu en commun l'humanité du Christ. Et cette humanité du Christ fait qu'il y a une certaine égalité. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il y a une certaine égalité, hein, entre l'homme et Dieu. Disproportion aussi, on est bien d'accord, mais je crois que c'est très beau de voir qu'au fond l'amitié avec Dieu elle est possible, et Jésus qui nous dit je vous appelle plus serviteur car le serviteur ignore ce que veut faire son maître, maintenant je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai appris de mon père je vous l'ai fait connaître, en Jean 15:15. Voilà, c'est ce que j'ai connu de mon père, c'est à dire que ce qui fait le cœur de ma vie je vous l'ai fait connaître, ce qui fait l'intimité de mon âme je vous l'ai livré. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que je vous appelle mes amis. Pas parce qu'on est copains, etc. Et cette amitié-là, on voit bien, on sait bien jusqu'où elle ira. Et jusqu'à la passion et l'amour, jusqu'à l'extrême. Donc on peut aussi voir, et terminer là-dessus, de dire, voilà, ça s'applique, ces différentes catégories qu'on a vues d'amitié, ça s'applique aussi à Dieu. Et de savoir où est-ce qu'on en est dans notre amitié avec le Seigneur. Est-ce que simplement parce que c'est agréable? Voilà, ça me fait des gousi-gousi quand je suis dans la prière, ça me fait des guili-guili intérieurs, ça, bon, bah, voilà, c'est agréable, il y a des chants qui me portent, etc. Bon, on éteint les lumières. Voilà. Est-ce que c'est parce que ça m'est utile? Ouais, c'est utile, bah, c'est ma béquille. Bah, le bon Dieu, c'est ma béquille, il faut bien avoir une béquille, tout, voilà, bah, moi, c'est... Bah, voilà. Et puis, donc, du coup, on est dans une relation donnant à donnant. Tu me donnes ça, je te donne ça. Voilà. Et voilà, est-ce que c'est pour Dieu, pour lui-même? Est-ce que aimer Dieu pour lui-même, pour ce qu'il est, parce qu'il est simplement Dieu, et qu'il mérite d'être aimé infiniment, parce qu'il aime infiniment, parce qu'il y a une perfection infinie en lui? Donc, on peut se questionner nous-mêmes là-dessus et ouvrir notre cœur. Je pense à réinterroger comme ça nos amitiés, nos amours, amitié déçue, amour déçu ou actuel, et toujours relire, peut-être pas s'insister, mais quand ça n'a pas fonctionné, d'avoir une relecture, de pas, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait en moi, en lui, en elle, que ça n'a pas fonctionné? D'avoir cette relecture intérieure, parce que l'engagement dans l'amitié est très profond. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai balancé beaucoup, ça va, ça n'a pas été, vous avez, c'est bon, vous avez survécu à peu près. Oui, allez-y, oui.
Oui, une question. Merci pour ces bons conseils déjà sur l'amitié. Moi, je voudrais savoir en fait quels seraient les éléments qui pourraient créer une amitié. Y a-t-il des éléments qui pourraient aller à l'encontre d'une création d'amitié, tels que trop de différences, trop d'écart, l'allusion aux opinions politiques,
oui.
Religieux,
oui.
Des questions sociétales, la trop divergence, est-ce que ça peut être à l'encontre d'une amitié ou simplement une passion commune suffit à créer l'amitié?
Ah, une passion commune servira à créer l'amitié utile. Vous voyez, je pense que ça, Maintenant, plus vous avez, vous partagez à l'intérieur, plus il faut une base commune. Et j'allais dire, plus l'amitié a comme finalité un bien qui est grand, plus l'amitié elle-même est grande. Et c'est vrai que, par exemple, pour donner un exemple, là, mais merci pour cette question, parce que vraiment, elle est. Par exemple, quand dans le mariage, il y a une sorte de déséquilibre, c'est pas tant la différence qui me fait peur que le déséquilibre. Il peut y avoir un déséquilibre, une différence sociale. Bon, mais s'il y a une communion des cœurs, une communion des intelligences surtout, ben, il y a beaucoup de choses qui socialement peuvent avancer. Hein, parce qu'on pige comment l'autre fonctionne. Et parce qu'on l'aime. Et parce qu'on a une intelligence. Mais c'est sûr que si l'autre est très différent et il ne pige pas, c'est compliqué. Quoi. Ça peut arriver. Donc il faut tout lui expliquer. C'est vrai que s'il faut expliquer toutes les blagues, vous voyez, c'est juste un. Ça ne peut pas possible, quoi. Ça ne peut pas continuer. Quoi. Parce que si, si, hein. Mais vous voyez, je me rappelle comme ça, même on en parle de blagues, parce que, à propos de la solitude, et je reviens à ce que vous avez, à votre question, à propos de la solitude, je me rappelle comme ça d'un témoignage de quelqu'un, la radio, etc., le fait d'être célibataire, ben, voilà, dans un film, j'ai explosé de rire, je me suis tourné vers mon voisin, puis c'était personne pour moi, quoi, mais je suis resté avec mon rire. J'ai pas pu. Vous voyez, quand on espère, on se tourne l'un vers l'autre parce qu'on veut partager, on veut le. Quelque part, ça nous a fait marrer, mais t'as vu. Bon, et puis du coup, on fait les quatre tas de commentaires, derrière, chut, voilà. Donc, voilà, donc c'est un, alors, juste pour revenir, il y a une passion peut tout à fait faire une amitié, mais qui aura lieu sur l'utile. Je suis passionné d'automobile, je suis passionné d'aviation, je suis passionné d'art. Du coup, je suis passionné de vin, voilà. On se retrouve sur quelque chose, bon, ça peut faire une forme d'amitié, mais qui n'aura. Et on se dit, voilà, parce qu'on a cette passion ensemble, qu'on partage ça, que. Mais si tu as une maladie, si. Voilà, tu commences à avoir la lèpre, tu commences à sentir mauvais, etc., ben, peut-être on aura peut-être plus une passion, quoi. Il faut se le dire. Alors, de dire, on a une passion. Mais c'est important d'en prendre conscience. Et c'est pas. Quand je dis ça, ça peut paraître négatif, mais. Être uni pour une passion, c'est pas rien. Maintenant, une difficulté par rapport à ce que vous demandez, c'est quand, je pense plutôt à l'amour, quand au niveau de la vie spirituelle, il y a une différence. Une différence dans la foi, et ne parlons pas de dialogue interreligieux, de cuménisme, etc., c'est que quel un des deux pour qui la vie spirituelle compte beaucoup, et l'autre pour qui, bon, les catholiques, bon, minimum syndical. La messe de rameau à Noël, vraiment le minimum. Donc, vous voyez, alors là, il y a quelque chose, il faut être, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amitié, d'amour possible. Il faut juste être attentif qu'il y aura une forme de solitude. Parce qu'un bien que l'on découvre comme bien et qu'on ne peut pas partager avec l'autre, eh bien, il y a quelque chose dans l'amitié qui ne va pas jusqu'au bout. Hein, alors. Alors, il y a d'autres points où on pourra aller jusqu'au bout, où on pourra être beaucoup plus en communion et avoir une vraie intimité hein, de cœur, etc. C'est pas pour ça que l'amour n'est pas possible. Mais il y aura un lieu de solitude. Par nature, il y a une solitude en nous. Tant qu'on n'est pas en Dieu, bon, il y a une solitude. Mais il y a une forme de solitude parfois sur cette question-là qui sera plus grande. Parce qu'il y a quelque chose que je veux partager et l'autre, en face, ça ne résonne pas du tout, quoi. Ça ne vibre pas du tout. Moi, je suis complètement vibrant, etc. De ce que et puis l'autre n'est pas vibrant. Vous voyez qu'on ne vibre pas de la même manière. Alors, sur des choses, on peut très bien ne pas vibrer. Déjà, homme et femme, ça ne vibre pas pareil. Et puis, mais il y a des choses. Maintenant, il y a des circonstances pour une amitié vraie. Je crois que c'est vrai que plus le partage est profond, plus l'amitié, la plage. Ben, plus l'amitié a des chances de durer, parce que c'est quelque chose. Et surtout. Plus on est passé par des épreuves ensemble, vous voyez, c'est plus on est passé par des épreuves ensemble, plus l'amitié aussi, et qu'on est resté ensemble, plus l'amitié peut durer. Parce que dans les épreuves, même si on ne se l'est pas dit, quand même on a été attaché à la personne. Si tu es encore là à mes côtés, c'est que quand même tu es attaché à ma personne, sinon tu ne serais pas là. Et moi pareil. Donc, d'autres questions? Oui.
En fait, j'ai plusieurs questions.
Oui, allez, vas-y.
La première, c'est. La jalousie qui nous touche pour tous d'une manière ou d'une autre au moment de notre vie.
Oui, la jalousie.
Quelles sont les causes? Comment lutter pour? En gros, désinfecter ce qui fait.
Pour la jalousie. Lutter contre la jalousie. Pour
l'amitié.
Pour l'amitié, d'accord. Oui. Ok. Et puis.
Des personnes fragiles. Moi, je travaille à l'Arche.
Oui.
Je connais Aristote dit qu'en gros, une personne fragile est condamnée à jamais être amie. En gros,
ça oui. C'est vrai, c'est intéressant de voir ça. C'est pour Aristote, mais on voit bien que c'est un païen. Je veux dire, c'est un païen. Et donc la question, c'est qu'au fond, de dire pour reprendre premièrement, je sais pas quel est ton prénom,
Mathieu.
Donc travaille à l'Arche, et du coup avec l'Arche, vous savez, de Jean Vanier, où il y avait des personnes handicapées, etc. Ce qui fait que pour Aristote, c'est vrai que on ne peut pas être ami de quelqu'un qui est dans une situation. Si moi-même je suis pas en fragilité, je ne peux pas être ami de quelqu'un qui lui-même est en fragilité. Parce que quand même, il y a quand même une révélation du christianisme, on s'en rend compte de plus en plus, mais qui est énorme, qui est juste énorme, qui permet justement. Alors, il faut que l'autre aussi puisse me rendre et laisser à l'autre la capacité de me rendre. Hein, comme dans le film Intouchable, voilà, on voit bien qu'il y a eu une amitié parce que justement ça a été. Alors là, tu as parlé de la jalousie. Alors quelles en sont les causes et quels en sont un peu les remèdes? La jalousie, tôt ou tard, nous guette. Ça, c'est juste. Ça, je crois que c'est une constatation juste de bon sens. Ça, c'est bien. Et de se dire d'où ça vient. À un moment donné, je ne perçois plus en moi le bien. Vous voyez, je ne perçois plus. J'envie le bien de l'autre. Je ne le veux pas pour le bonheur, mais j'envie le bien de l'autre comme le regrettant pour l'autre. Et comme au fond, derrière ça, c'est que moi-même, je ne me découvre pas vraiment aimable. Je ne suis pas vraiment. Voilà, c'est. Ah, si j'étais. Si je perdais 10 kilos, je serais aimable. Si j'avais tel diplôme, je serais aimable. Si j'avais de l'argent, je serais aimable. Quelque part, chaque fois, on est dans une quête d'autre chose et on passe à côté du fait que, comme on est aimable. La jalousie, c'est vraiment un piège. Comment en sortir? Bon, il n'y a pas vraiment de technique, hein, sinon ça se saurait, mais je crois que. Comment en sortir? Je pense que ça. On en sort beaucoup par d'abord en découvrant les talents qui sont en soi, en découvrant combien si nous aussi dans une dimension de foi, je t'aime et je t'ai gravé dans les paumes de mes mains, hein, dit le texte biblique. Voilà combien on est aimé de Dieu, combien on est aimable. Maintenant, pour certains, ce sera un vrai combat. Pour certains, ils seront toujours tentés par la jalousie, d'autres seront toujours tentés par la domination, d'autres seront toujours tentés par le mensonge, ou le vol, ou que sais-je. Hein, voilà. Et donc, je crois que dans la vraie amitié, il n'y a pas de jalousie. Ça peut être passager, mais il n'y a pas quelque chose qui s'installe. Voilà. Et puis, c'est vrai, on peut être l'ami de quelqu'un plus fragile que soi, mais pas pour Aristote. Pour Aristote, ce n'est pas possible, parce que ça demande une égalité. Ben, ne serait-ce que Dieu soit nos 10 amis, comment vous expliquer, entre Dieu et nous, il y a complètement un déséquilibre. Quoi. Je veux dire, entre la créature et le créateur, ça n'a rien à voir. Et que Dieu lui-même nous appelle ses amis, ça fonde une autre forme d'amitié. On peut être ami de quelqu'un et de voir, au fond, l'autre. J'ai été un petit peu à l'Arche pendant un certain temps pour des repas une fois par semaine avec une personne très lourdement handicapée qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui bave, etc. Bon, est-ce qu'on peut parler d'une amitié et du coup je trouve que le fait de cette amitié de cette personne-là, c'est simplement accepter que je lui serve la nourriture, je le fasse manger et parce qu'il peut aussi très bien refuser avec d'autres, ça se passait mal. Parce qu'il refusait de s'alimenter, que d'autres l'alimentent. Montrer sa fragilité à l'autre, c'est déjà une forme d'amitié. On en a parlé un peu ensemble. Et donc, je trouve que c'est. Mais c'est une autre lumière que celle d'Aristote. C'est une lumière qui vient de la révélation de Jésus-Christ, de l'Évangile. À vue humaine, non. Ça demande une égalité, quoi. D'autres questions un peu dans... Oui.
Vas-y. J'ai deux questions.
Vas-y.
Oui. Parce que la véritable charité, c'est donner sans vouloir avoir autre.
Voilà, alors.
Donc, il n'y a pas de réciprocité.
Alors, voilà, il n'y a pas. La charité, alors, il y a trois formes. Mais, ensuite, tu me diras la deuxième. Mais il y a trois formes. La charité, n'oublie pas. La charité, c'est exactement ce que tu viens de dire. On donne sans attendre de retour. C'est ce qu'on appelle. Il y a trois formes d'amour. Hein, en grec, il y a trois mots pour exprimer l'amour. En français, on est très pauvre de ce côté-là, même si on aime beaucoup exprimer l'amour. Mais on est très pauvre en mots. Hein, en anglais, il y en a moins deux. Bon, mais il y a Eros, qui est justement dans cet amour qui vient que l'autre comble un vide pour moi. pas forcément sexuelle, hein, c'est l'autre comme on l'invite. L'autre est pour moi, c'est l'amour qui prend. Il y a la philia qui est l'amour d'amitié, dont on a parlé là, philia, et il y a l'agapé, il y a l'amour qui donne sans attendre de retour. L'amitié, la charité, l'amitié en tant que telle n'est pas du même ordre de la charité. C'est pas du même ordre. On peut pas, dans une relation de charité, il y a ce côté désintéressé. Il y a ce côté ne pas attendre de retour. Donc c'est vrai, c'est des formes d'amour qui sont différentes. Mais on ne peut pas parler d'amitié quand on est dans une dimension de charité, d'offrande, qu'il faut. Et c'est important ça, parce que par exemple, le mariage s'inscrit dans la philia, s'inscrit pas dans l'agapé. C'est vachement important. Parce que si on se trompe d'amour, vous voyez, vous trompez, vous ouvrez une porte, mais c'est pas la bonne porte là que vous êtes rentré par la. Alors, il y a beaucoup qui rentrent par les roses, ça c'est vrai. Et puis, mais ensuite, il y a beaucoup qui. Mais voilà, si vous entrez par la philia, c'est, vous construisez une réciprocité, donc une vie commune possible. Mais par l'agapé, c'est cet amour qui a été inventé aussi pour les chrétiens, quelque part, qui a été mis pour les chrétiens comme pour expérimenter cet amour qui n'attend rien. La deuxième question.
C'était donc sur la franchise dans la relation amicale. Je veux parler peut-être de mon expérience personnelle.
Oui.
Je pense que je suis trop franc. la correspondance, comme tu disais tout à l'heure, elle ne se fait pas entre moi et la personne. Et c'est comme ça que je me rends compte que moi, à 36 ans, je pense que je n'ai jamais eu d'amis de ma vie.
Parce que tout le monde n'a pas vu le bien qu'il y avait en toi. Je vous invite à voir ce soir le bien qu'il y a en toi.
Sachant qu'il y a des personnes qui auraient pu être ton ami.
C'est-à-dire que l'amitié, voilà. Ah oui, allez, ça arrive aussi. Il y en a qui veulent être ton ami. Moi, je veux être ton ami. Qui te like sur Facebook, etc. Qui te font. Voilà, ça, c'est pas. Ça, on voit des gens qui. Ah, je veux être absolument dans ton réseau. Voilà. C'est vraiment les sensus, quoi. Et alors. L'amitié, je crois que il y a quelque chose de Jean-Paul II qui est intéressant quand il a parlé de l'œcuménisme. Quand il a parlé de l'œcuménisme, parce qu'il a dit pour que la communion soit effective, il faut d'abord qu'elle soit affective. C'est-à-dire que si beaucoup de gens ont besoin de cette étape du plaisir, de cette étape de joie, de cette étape d'émotion, de. Si d'entrée de jeu c'est abrupt, tu décourages. C'est une manière aussi de se protéger. Hein. Si d'entrée de jeu, voilà, c'est un peu raide, c'est un peu. Toi, aujourd'hui, t'es fringué, mais c'est complètement nul. Je veux dire, je ne sais pas si tu t'es rendu compte. Tu regardes dans. Bon, c'est vrai que ça peut décourager des bonnes volontés. Ou alors, il faut vraiment avoir une vision du bien en face énorme. Hein. Donc, je pense qu'on peut dire les choses. Là aussi, c'est dans la justice. On peut dire les choses à certains moments. Il y a une progressivité dans le dire. Hein. Et le fait d'une franchise, etc. Mais la franchise, c'est aussi dire le bien. C'est dire le bien qu'on voit dans l'autre et qu'on expérimente. On s'arrête c'est bon, on arrête là maintenant hein. C'est bon, vous avez d'autres questions, d'autres.